Bonjour et bienvenue sur Monnaie Libre avec un nouvel invité aujourd'hui, c'est un Belge, il s'agit d'un docteur en mathématiques, Emmanuel Bulteau. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Stéphane.
Alors, docteur en mathématiques, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que docteur, je crois que c'était les médecins.
Eh bien, pas seulement, il n'y a pas que les médecins qui sont docteurs, on peut être docteur un peu en n'importe quoi. En fait, après master, après ces 5 années à l'UNIF, il y a des gens comme ça qui décident de faire ce qu'on appelle une thèse. C'est un travail de recherche et au bout de ça, on obtient un diplôme qui s'appelle un doctorat. Et donc là, après, on obtient le titre de docteur en la discipline qu'on a étudiée. Dans mon cas, ce sont les mathématiques.
Voilà, docteur en mathématiques, docteur en physique. Voilà, c'est en gros le plus gros diplôme, hein, le plus haut diplôme qu'on puisse avoir. Hein. En université, certains sont docteurs dans plusieurs disciplines d'ailleurs, et donc ça permet ensuite de faire de la recherche, bien sûr, puisqu'on devient pointu sur des domaines précis, donc de la recherche ou du professorat, voilà, ce genre de choses.
C'est bien ça.
Voilà, alors tu fais partie des Belges hein, qui ont fait des travaux sur la théorie relative à la monnaie, puisqu'on en a au moins deux, puisqu'on a aussi François Jorté, un autre Belge que tu connais un peu, je crois bien, de nom au moins.
Oui, de nom.
Et qui, donc, lui, est un économiste et qui a lui aussi fait un travail sur la théorie relative de la monnaie. Alors, d'un point de vue vraiment, disons, avec un discours d'économiste. Mais toi, tu es mathématicien et tu as fait un travail, la TRM, en détail. Alors, que je trouve vraiment de très très haut niveau, de très très bon niveau. Et pour lequel, non seulement, bien sûr, il y a des mathématiques, mais il y a aussi des explications assez claires, assez nettes, avec des encarts explicatifs sur des notions. Donc, voilà, c'est un travail complémentaire à la TRM, voire même. Avec lequel c'est un travail avec lequel on peut même s'approprier la TRM directement. Voilà, c'est vraiment un travail de réécriture complet, de réexplication, avec un point de vue légèrement différent, même si on retrouve bien sûr tous les points fondamentaux qui sont très très bien expliqués. Alors tu étais aussi venu aux 5e rencontres des monnaies libres hein, en juin dernier.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc on y reviendra en deuxième partie, on parlera bien sûr de ton travail à la TRM en détail, on parlera bien sûr aussi des rencontres des monnaies libres, donc tu parleras de ton expérience lors de la 5e, et puisque la 6e édition aura lieu dans une dizaine de jours, du 12 au 15 novembre 2015, donc à Valence. Mais avant on va parler de ton approche sur le sujet de l'économie de la monnaie, comment ça t'est venu, ça, cet intérêt sur l'économie de la monnaie? Voilà, quel est ton parcours sur ce sujet-là?
Alors, l'économie, ça m'a intéressé depuis... pendant mes années d'université, j'ai étudié ça un petit peu, mais c'était de loin, sans grande passion non plus. Et puis... J'ai commencé à m'intéresser à la monnaie via les monnaies complémentaires aussi, en fait. J'ai découvert cette notion, je ne sais plus trop comment, je pense que c'était via les écrits de Bernard Guettard, qui est aussi un économiste belge. Mm-hmm. Et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme outil et ça m'a poussé à m'intéresser davantage à la monnaie en elle-même.
D'accord. Et est-ce que c'était aussi lié aux problématiques économiques que l'on constate là depuis quelques années, à la notion de crise économique? Est-ce qu'il y avait ce rapport-là? Et est-ce que c'était aussi lié à ta formation de mathématicien, l'aspect mathématique de la chose?
En fait, non. Je me suis intéressé, mais tout à fait indépendante à la crise ou quoi. Ça, c'est... Non, en fait, la crise m'a fait m'intéresser... Pas après, plus à la notion de dette, mais la notion de monnaie, ça c'est venu indépendamment avant. Et par rapport à mon background de mathématicien, ça c'est quelque chose de plutôt indépendant, disons que c'est une autre partie de ma vie, j'ai envie de dire.
D'accord, donc c'est vraiment, d'accord, c'est à la limite c'est presque un sujet à part quoi en fait, hein, voilà, donc, c'est presque un sujet qui pour toi était à part. Pourtant, quand on étudie ces domaines que sont l'économie et la monnaie, les mathématiques sont quand même très prégnants, ils sont très présents. On parle de croissance, donc ça fait des notions de pourcentage, et même de pourcentage par unité de temps, ça fait penser aussi... À des équations, puisqu'on va traiter des bilans ou des équilibres ou des échanges, donc avec un terme à gauche, un terme à droite, avec des égalités au milieu. ou des supérieurs et des égales, voilà. Donc il y a tout un tas quand même d'outils mathématiques qui sont utilisés dès qu'on fait un peu d'économie, et encore plus quand on traite la monnaie, qui avant tout d'ailleurs repose sur des nombres.
Oui, tout à fait. Il y a pas mal d'outils mathématiques qui sont utilisés en économie. Mais du point de vue d'un mathématicien, ça reste des outils assez basiques, en fait. C'est pas du tout au niveau des mathématiques qui sont faites en recherche ou quoi. Donc, voilà. C'est ça qui fait que ça reste finalement assez séparé dans mon approche.
Oui, bien sûr, parce que les mathématiques que tu traites sont de niveau bien supérieur, effectivement, à ces notions, en tout cas de base dans l'économie, même si, bien sûr, après, on a des chercheurs en économie qui font des théorèmes ou qui développent des idées sur ces notions-là, qui peuvent faire appel à des maths plus évoluées aussi. Hein. Ça existe aussi. Hein. Ne serait-ce que, je ne sais pas si tu connais d'ailleurs, hein, pour faire un aparté, ça me fait penser, alors je crois qu'il y a le théorème de Nash, John Nash, ouais. qui avait écrit des choses là-dessus, mais aussi Mandelbrot, je ne sais pas si tu sais... l'approche fractale que Mandelbrot a développée, notamment pour étudier tout ce qui est justement variation des prix dans les marchés, notamment en bourse, etc.
Ah, ça, je ne savais pas qu'il l'avait appliqué en économie. Enfin, je sais qu'il y a toute l'affaire du mouvement brownien qui est pas mal utilisée pour modéliser la finance.
Ouais.
Et en finance, on utilise des maths un peu plus poussées, clairement, mais ça, c'est encore autre chose, en tout cas de mon point de vue.
D'accord. Donc, alors oui, pour Mandelbrot, juste pour dire, oui, c'est un de ses derniers livres d'ailleurs, hein, un de ses derniers livres, puisqu'il nous a quittés il y a quelques années, un de ses derniers livres, c'est justement l'application ou l'analyse fractale de la bourse, en fait.
Okay.
Mais c'est difficile d'accès, parce que les fractales sont encore un objet mathématique très difficile d'approche, hein, semble-t-il. Quand tu traites de l'économie, tu vois les monnaies complémentaires, voilà, tout ça, bon, on a compris, c'était un sujet qui t'intéressait, que tu as découvert, qui t'a comme ça interloqué. Et alors, comment tu en es arrivé à la TRM et quelle a été ta découverte de la TRM? Comment c'est ta première approche quand tu découvres la TRM à ce moment-là, après avoir fait ce travail, comment tu aperçois cet objet finalement?
Alors, je ne me souviens plus trop comment je suis arrivé sur la TRM. Je pense que c'était vraiment de proche en proche, en surfant sur le web. Et puis, quand je me suis enfin décidé à lire ça, parce que ça a traîné sur mon disque dur pendant des années, en fait, j'ai vraiment été émerveillé de l'approche, cette approche finalement assez simple et des résultats assez... je ne sais pas comment dire. Finalement aussi... Tout aussi simple, mais qui tranchait tellement avec quoi on a l'habitude, qu'on se demandait, mais comment ça se fait que la monnaie actuelle n'est pas comme ça?
Oui, d'accord, donc ça t'a frappé. Et quelles sont les notions qui t'ont frappé le plus parmi celles qui sont développées dans la théorie relative de la monnaie?
Ce qui m'a vraiment le plus émerveillé, c'est la manière dont le temps était intégré dans le raisonnement. Parce que partager la monnaie entre les individus, c'est encore quelque chose d'une idée qui est finalement assez naturelle, mais réussir à faire en sorte que personne ne soit avantagé également dans le temps, ça c'est quelque chose de beaucoup plus fort et qui n'est pas nécessairement facile à traiter et qui arrive à des résultats étonnants et sympas, quoi.
Oui, d'accord. Donc effectivement, l'aspect temporel, c'est sans doute un des aspects effectivement les plus difficiles à réaliser. Et très souvent d'ailleurs, effectivement, les gens qui parlent qui essaient de parler de la théorie relative à la monnaie, quand ils l'ont un peu lu, etc., c'est curieusement le point qu'ils ignorent le plus souvent, qu'ils ne commentent pas, qu'ils n'expliquent pas, alors que c'est sans doute peut-être le plus, comme tu viens de le dire, le plus fondamental. Parce que celui qui rajoute vraiment quelque chose à ce qui est établi par ailleurs, oui, tout à fait. Alors, donc tu en arrives à étudier ça, et alors à ce moment-là, donc tu vas décider de creuser ça plus en profondeur, parce que pour arriver à se décider à en réécrire le développement, faut être motivé quand même, je pense.
Oui, c'est-à-dire que j'ai remarqué que, enfin, Donc j'avais vraiment, en lisant le texte, il y avait certains passages qui pour moi n'étaient pas très clairs, où je manquais en fait de détails, etc. Et je me disais, si quelqu'un comme moi qui a quand même pas mal de bagages en maths a du mal, bah il y a beaucoup de gens qui vont avoir encore plus de mal que moi. Mmh. Et donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour rendre le tout plus accessible à d'autres gens qui auraient du mal à comprendre et à lire. Et donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à réécrire la chose.
Ouais, d'accord. Et tu as fait, tu as vraiment fait une réécriture, hein, c'est-à-dire que quand on lit ce papier, alors qui n'est pas fini d'ailleurs, même s'il est déjà assez fourni, hein, parce que, alors, je vais regarder, je crois que le nombre de pages, là, on est à combien ? 23 pages, c'est ça, actuellement ?
Ouais.
Mais tu annonces qu'il y aura une suite. Hein.
Donc... Oui, c'est pas fini. Il y a encore plusieurs points que j'aimerais développer, mais il y a aussi d'autres choses que j'aimerais développer dans la monnaie plus générale. Donc,
Oui, bien sûr, d'accord. Donc c'est le début d'un travail plus profond et peut-être plus général, d'accord. C'est vraiment à suivre. Alors à noter hein, que ce travail, la TRM en détail, alors il est cité, maintenant je l'ai mis dans les trois travaux qui parlent de la TRM que j'estime les plus avancés et les plus complets. Il est dans la page officielle de la théorie relative à la monnaie, dans son créationmonétaire.info, sur la page TRM 2.718. Il y a les travaux de François Jourté, bien sûr, aussi. Les travaux qu'a fait David Chazalviel, la TRM en couleur et la TRM pour les enfants, qui sont plus de la simulation informatique et de l'apprentissage informatique. Alors, c'est donc la TRM par la pratique, presque, j'ai envie de dire. C'est une simulation qui permet de manier les concepts. Et puis donc ce travail de la TRM en détail. Alors le site officiel, il faut le dire. Alors, tu vas nous dire l'adresse, toi, directement.
Alors, c'est monnaie.ploc.be.
Voilà, monnaie avec un E.
P-L-O-C.
Voilà, ploc, P-L-O-C et .be, comme les Belges, voilà. Les Belges.
Oui, c'est ça, voilà.
Que feraient les Français sans les Belges ? Voilà, on se demande. Non, mais c'est vrai, le nombre de Belges hein, qui nous permettent d'avoir des choses intéressantes, il n'arrête pas d'augmenter. Hein. On pourrait citer Jacques Brel, on pourrait citer Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, hein. On pourrait citer Goscinny, Uderzo, je sais plus, les deux sont belges d'ailleurs ou...
Non, ils sont français tout de même.
Ah, ils sont français eux ? Ah, je crois qu'ils étaient belges
oui,
aussi.
Oui.
Ah oui, d'accord. Mais c'est Hergé qui est belge. Voilà, bon, enfin bref. Donc d'ailleurs, Bruxelles, grande capitale de la bande dessinée, moi je suis un fan de bande dessinée. Donc j'adore les Belges, ça m'est arrivé d'aller en Belgique quelques fois, et c'est vrai que c'est très très sympathique. Alors, donc, bon, mais là je m'éloigne. Hein. Alors, donc, et alors pour revenir à ce travail, alors comment tu perçois maintenant la difficulté qu'il y a de transmettre cette explication autour de toi? Est-ce que déjà tu en as parlé autour de toi, y compris à des collègues mathématiciens ou dans ton entourage, et comment c'est perçu?
Alors, j'en ai un peu parlé, mais pas encore tellement que ça, finalement. Disons que le truc qui m'a frappé, c'est que chaque fois que je parle comme ça de création monétaire, j'ai l'impression d'avoir un blanc devant moi, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, enfin, s'étonnent de ce que je raconte. Genre, cette question de d'où vient la monnaie, j'ai l'impression que ça ne se sont jamais posées et ça sort un peu nulle part et ils ne comprennent pas trop. Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement.
Ça, c'est vraiment le problème. C'est que déjà, à la base, poser la question est finalement quelque chose de pas si évident.
Oui, on est devant, parfois ici, devant effectivement un trou noir. On a souvent des hommes qui utilisent la monnaie, mais qui ne se sont jamais posé la question de la nature de cet objet, en fait.
Oui, tout à fait.
Hein, donc, du coup, forcément, la question relative à sa création, ben, effectivement, tu obtiens un blanc parce que l'objet même, ils ne se sont jamais questionnés de sa nature. On essaie de travailler pour en avoir de la monnaie, mais on ne se demande jamais, mais au départ, elle est créée par qui, quoi. C'est-à-dire qu'il y a...
Ah oui, exactement.
Ouais. Parce qu'on se dit, c'est évident, c'est là, et mais c'est peut-être pas si évident que ça, en fait.
Voilà.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que l'éveil à la nature même de la monnaie, c'est à savoir qu'elle est créée quelque part, est-ce que c'est pas déjà commencer à répondre à la question, quoi. Voilà,
Mais tout à fait, c'est par là qu'il faut commencer. Savoir d'où ça sort. Et après comprendre comment ça s'est développé et comment est-ce qu'on en est arrivé. Pour finir par, présenter en force la TRM comme une grande solution.
Est-ce que c'est vraiment une grande solution ou pas? Seule l'expérience peut après vraiment y répondre. Parce qu'après, tu sais bien qu'on a beau faire ou trouver des développements, quels qu'ils soient, tant qu'on ne l'a pas mis en œuvre concrètement et expérimenté véritablement, on est en droit de garder de la prudence. Hein, voilà, c'est-à-dire que...
Tout à fait, c'est effectivement la pratique qui nous dira quoi. Mais disons que c'est une belle contribution théorique et... C'est vraiment un bon espoir.
Voilà. En tout cas, c'est une possibilité, comme je dis souvent. Une monnaie libre est possible. Savoir est-ce que c'est une solution ou pas, on ne peut pas répondre ni oui ni non tant qu'on n'est pas devant des expériences qui l'ont mise en œuvre. Alors, à ce jour, aucune expérience n'a mis en place une monnaie libre sur une durée conséquente, en tout cas, devant ce qu'exprime la TRM, c'est-à-dire devant l'espérance de vie humaine. Et donc, on ne peut pas définitivement trancher. Alors, quelles sont, à ton avis, les choses à faire pour mieux quand même au moins diffuser la théorie relative à la monnaie, la faire connaître et qu'elle soit au minimum étudiée et prise en compte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Oui, pour moi, il y a plusieurs approches. Et d'abord aller de manière plus horizontale, ouvrir ça plus au monde et donc réussir à faire en sorte que, enfin, par exemple, déjà traduire en anglais, je pense qu'il y a un projet qui s'occupe de ça pour que ça sorte un petit peu du milieu francophone.
Alors c'est fait, hein, je peux l'annoncer là d'ailleurs, hein, la théorie relative de la monnaie vient d'être 100% traduite en anglais, hein, la version originale. Voilà. C'est fait par un pool de contributeurs mené par Vincent Texier, hein, qui a fait un gros travail sur une base qu'avait fait Stéphane Klein. Et d'autres contributeurs sont venus, il y a Magali, il y a eu Sybille, il y a eu Carole, Olivier Aubert aussi, je crois, a contribué, Moule a contribué, bon, bref, il y en a plein. Je ne vais pas citer tout le monde, malheureusement, je les ai pas en tête. Mais ils ont fait un gros travail avec un pool d'accélération, et maintenant il y a une version entièrement en anglais disponible. Alors les sources sont pas encore disponibles, ce qui d'ailleurs est un problème, puisque la licence étant la GPL, le publier sans les sources, c'est pas respecter la licence, mais bon, ça, je pense que ça va venir assez vite, j'espère que le vite tardera pas trop, mais en tout cas c'est disponible, on peut déjà lire la version, disons, originale, en tout cas, au moins en anglais. Alors la TRM en détail, je sais pas si tu as prévu de la mettre en anglais aussi.
Alors oui, en fait, ça c'est quelque chose que j'aimerais absolument... Alors maintenant, oui, il y a la question de est-ce que je la traduis moi-même ou pas. Ça, je verrai. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je tiens à... qui se passe. Donc, ça se fera. Ça, c'est clair.
D'accord. Donc, ouais, tu tiens à faire ça. D'accord. D'accord. Donc, la traduction, au moins, voilà. Ça, c'est la question est réglée. Donc, cette possibilité, elle est faite. Mais il suffit pas la traduction parce que, comme tu disais. Grande partie des interlocuteurs, quand on leur parle monnaie, il y a un blanc, et bon, ça dépend pas de la langue, ça.
Oui, non, donc ça, c'était une première partie pour ouvrir le mouvement au monde, et puis il y a la partie approfondissement déjà chez nous. Donc là je pense que pour que ça se passe, il faudra encore développer pas mal d'outils de vulgarisation.
Oui.
Ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi faire, d'ailleurs, après, dans un second temps.
D'accord. Et tu penses à quoi comme outil de vulgarisation?
Je n'ai encore rien fixe en tête, mais par exemple, là, en fait, j'ai tapé un gros texte d'une vingtaine de pages. Alors, je sais que, bon, des gens motivés qui s'intéressent vraiment, ils pourront lire ça et comprendre, mais des gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais cette patience, et donc... produire quelque chose de plus léger, avec plus de visuel, par exemple, juste un document A4 qui pourrait déjà fournir pas mal d'infos, plus attirant, ou des choses comme ça. Je n'ai pas encore de trucs très précis en tête, mais en tout cas, j'aimerais développer quelque chose.
D'accord, ça veut dire que tu y penses, et donc dans ton esprit, tu as cette volonté d'essayer de fournir quelque chose de synthétique, en fait, hein, voilà. Donc, d'ailleurs, à ce niveau-là, je pense que tu as apprécié le travail de David Chazalviel, la théorème en couleur.
Oui, tout à fait, ça c'était vraiment chouette. Surtout la théorème pour les enfants.
Ouais.
Qui a développé, ça c'était vraiment quelque chose de très chouette.
Ouais, à noter qu'il l'a déjà traduit en anglais, lui.
Il l'a traduit en anglais?
Ah, oui, il y a une version. Okay. Ah, ouais, maintenant il y a la version française et anglaise. Il a traduit les deux en anglais, hein. Elles sont disponibles.
Oh, super.
Eh oui, tu vois que ça traîne pas. Donc, je crois. Alors, par contre, je crois que François Jourté lui le fera pas traduire son truc en anglais parce que lui, il est très francophile, hein, c'est-à-dire qu'il est presque, je crois, anglophobe. C'est-à-dire que il veut mettre en valeur la langue parce qu'il estime qu'utiliser une autre langue, ça, c'est pas une bonne idée pour garder sa liberté, quoi, en gros, hein, pour simplifier. Hein. Bon, ça, il faudrait développer son idée, mais je crois que c'est un peu un séditieux, hein. Il est un peu en sédition en Belgique, hein, François Jourté. C'est un rebelle, hein.
Oui, ça, je ne peux pas le dire, je ne le connais pas suffisamment.
Ouais, je crois qu'il est un peu rebelle. Alors, si tu veux bien, pour continuer sur ton travail, la TRM en détail, c'est nous donner donner quelques pistes. Quels sont les points, peut-être les deux ou trois sujets fondamentaux qu'il faut expliquer pour décrire la TRM à quelqu'un qui aurait déjà compris que la monnaie pose problème, bon, très bien, et lui dire voilà, on pourrait envisager une autre monnaie. Quels sont les points qui, à ton avis, sont les plus cruciaux à expliquer?
Les plus cruciaux à expliquer, c'est en fait ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire en sorte que la quantité de monnaie qu'on reçoit comme ça, une fois qu'on a gardé en tête ce principe de partage équitable de la monnaie, finalement, de la création monétaire, c'est réussir à faire en sorte que peu importe quand on vit à quelle époque on vit et en fonction des autres aussi, d'avoir chaque fois la même valeur de monnaie pour soi. Donc, on crée comme ça cette valeur invariante. Enfin, qu'on puisse disposer d'une valeur invariante en permanence.
D'accord.
Alors, oui, ce concept n'est pas évident à...
Oui, alors, et là alors, tu heurteras à la réponse classique qui est mais pourquoi on aurait... la même monnaie chacun, je veux dire, c'est si je travaille et que j'ai un salaire, c'est parce que je travaille, et donc pourquoi chacun aurait la même monnaie, parce que souvent il y a la réponse là qui est comme ça, qui est une réponse, et donc il y a plein d'incohérences dans la réponse, mais n'empêche, c'est souvent la réponse qui vient quand on commence à expliquer le principe, d'ailleurs, mais si tout le monde a la même chose, il n'y a plus d'incitation au travail, où il y a confusion entre le salaire et la façon dont la monnaie se crée. Hein.
Oui, c'est ça. En fait, là, on parle vraiment de la création de la nouvelle monnaie qui serait distribuée équitablement, et on parle pas... Enfin, c'est pas... tu as ta monnaie, et puis tu la gardes, et tu ne pourras plus toucher rien d'autre. C'est vraiment... voilà. Non, on a sa part de monnaie nouvellement créée, et puis on fait absolument ce qu'on veut avec. Si on travaille, on en a plus. Si on travaille pas, ben, on n'aura pas plus. Et voilà, on fait les échanges qu'on veut, et son stock évoluera en fonction de ça.
Et si on te répond, alors tu avais donné une excellente réponse, hein, dans le terme en détail, mais justement, si on te répond, oui, mais alors, si on crée plus de monnaie, il va y avoir de l'inflation.
Oui, mais oui. Et c'est ça qui est ce point-là. Oui. Effectivement, en fait, plus il y a de monnaie en circulation, plus, moins l'unité monétaire va avoir de valeur. Ça, c'est un fait. Donc, les stocks qu'on a vont baisser en valeur. Mais seulement, vu que la monnaie nouvellement créée est partagée entre tous, on va recevoir quelque chose qui va compenser cette perte en valeur. Ce qui fait que, si on est sur la moyenne, finalement, on ne va rien perdre. Et c'est... on a une partie qui diminue en valeur, mais c'est compensé par quelque chose qui augmente. Donc, ce n'est pas un problème fondamental.
Et voilà une des explications possibles. Il y en a d'autres, bien sûr. On pourrait parler que si on compte en nombre de dividendes, le dividende étant la part de monnaie créée à chaque fois, et bien dans ce cas-là, on peut même dire qu'il n'y a pas de création de monnaie, puisqu'il y a toujours le même nombre de dividendes dans la monnaie. Alors, c'est ce que je dis souvent, le truc qu'il faut comprendre, c'est que bien qu'on ne crée pas de la monnaie, on en crée quand même.
C'est ça, il y a création de la monnaie en quantité, et puis c'est différent encore de la valeur.
En relatif, oui.
Oui, voilà, c'est ça, parce que... Oui.
Alors, d'ailleurs, alors, le problème des nombres relatifs, c'est un problème de maths, je dirais, de début des maths, finalement, parce que Quand on commence à compter, on apprend d'abord les entiers naturels, et les nombres relatifs, ça vient après, d'ailleurs. C'est une complexité qui vient ensuite, bon, finalement, dans l'apprentissage des mathématiques.
Oui, oui. Les nombres relatifs.
Oui, les nombres relatifs.
Oui, tu veux parler des fractions.
Oui, les fractions, et puis le fait qu'on calcule en proportion les choses et non plus en quantité, quoi.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Voilà, il y a une grosse différence entre considérer les choses. Tu le dis bien, soit on considère les choses en fonction de la proportion, soit en fonction de la quantité, et tu ne tiens pas. Enfin, c'est deux manières différentes de raisonner, et en fait, dans la vie de tous les jours, généralement, raisonner en proportion a beaucoup plus de sens que raisonner en pleine quantité.
Ouais, ouais, exactement. Très bien. Alors, on va approfondir hein, ces thèmes avec toi dans la deuxième partie, mais en attendant, si tu veux bien, Emmanuel, on va faire une pause musicale pour, hein, pour respirer avec nos auditeurs. Donc, on se retrouve juste après cette pause musicale avec donc Emmanuel pour parler de théorème en détail. On parlera aussi des sixièmes rencontres des monnaies libres, donc on parlera expérience des monnaies de la cinquième où tu étais présent. Donc, à tout de suite après cette pause musicale sur Monnaie.
I'll tell you who you are. over in underground cities made of steel and stone babies. Call them home. Creatures crawling on the ground, beehive, busy buzzing sound and hills, hailing to the queen empires, towering over trees.
Nous voici de retour donc sur Monnaie Libre, toujours avec notre docteur en mathématiques, auteur de la TRM, la théorie relative à la monnaie en détail, Emmanuel Bulto. Alors, on parlait de quelques réponses avant cette pause sur des questions qu'on pouvait poser à quelqu'un qui voudrait comprendre la théorie relative de la monnaie. Est-ce que... Alors, tu as parlé d'invariance, hein, qu'il fallait on pouvait répondre qu'il faudrait que la part de monnaie coproduite par chacun finalement soit invariante, qu'elle ne dépende pas. Est-ce que tu as perçu dans l'économie actuellement cette asymétrie justement de création monétaire dans la monnaie officielle entre générations justement.
Si je l'ai perçu.
Oui. Est-ce que t'as le sentiment que les générations d'aujourd'hui, les jeunes générations d'aujourd'hui, ne sont pas dans les mêmes dispositions que les jeunes générations, disons, d'il y a 20 ans ou il y a 30 ans?
Oui, mais ça, c'est une question pas si évidente à répondre finalement, parce que je n'étais pas là il y a 20 ou 30 ans.
Eh oui, c'est bien la question.
Voilà.
Donc c'est pas
oui,
facile.
Non. Bon, oui. Je pense que les conditions économiques étaient différentes. Maintenant, parler juste au niveau monétaire, ça je préférerais pas trop me prononcer là-dessus.
D'accord. Parce que là, évidemment, on sort de la pure théorie. Il faut prendre les données du monde réel. Il faut aller chercher l'information et vérifier expérimentalement que les choses étaient comme ceci, qu'elles sont aujourd'hui comme ça. À la limite, effectivement, ça sort du domaine... purement des mathématiques, parce qu'évidemment la caractéristique des mathématiques c'est de permettre le raisonnement, la réflexion sans lien direct forcément avec l'expérience.
Effectivement.
Ouais, t'es d'accord avec ça?
Oui, hein? Oui, bah c'est clair que les mathématiques ça reste une science purement abstraite, c'est la science du raisonnement finalement.
Ouais. Donc c'est le problème effectivement après de voir ce lien qu'il peut y avoir avec l'expérience. Alors, je voulais citer, alors on parlait de l'inflation juste avant, et puis alors, tu as fait c'est un court paragraphe que je voulais citer, que tu as écrit sur la fonte. Alors je vais le lire, et tu vas peut-être le commenter derrière. Je l'ai trouvé très pertinent, c'est une autre façon d'expliquer qu'il n'y a pas de fonte. Et vous allez voir, c'est malin comme il fait Emmanuel, puisqu'il commence à vous expliquer qu'il y a bien de la fonte, et puis à la fin il vous dit, mais non, finalement il n'y en a pas. Donc, donc il dit, alors, fonte, alors c'est le chapitre 3.6. La première partie c'était l'inflation, on en a parlé juste avant. Alors il dit, une critique apparentée, par rapport à l'inflation, est qu'une monnaie suivant les principes de la TRM est une monnaie fondante, c'est-à-dire qu'elle perd de la valeur au cours du temps. Cette fonte étant due à la croissance programmée de la masse monétaire. Ceci est vrai, les stocks de monnaie baissent en valeur chaque année. À supposer toutefois que la population ne croit pas trop pour contrebalancer la croissance de la masse monétaire. Toutefois, cette baisse en valeur des stocks est compensée par un apport régulier de monnaie. Et ce point est crucial. Tenant compte de cet apport, nous avons pu voir dans la section 3.5 que cette fonte n'affecte que les individus possédant davantage que la masse monétaire moyenne. Celui qui possède un stock inférieur, il sera même gagnant au cours du temps. Ceci est à mettre en perspective avec la notion de fonte telle qu'elle est présentée habituellement, où le stock de monnaie d'un individu à flux monétaire nul se réduirait inexorablement jusqu'à ne plus rien valoir. Dans le cas présent, le stock de monnaie d'un tel individu tendra vers la moyenne, qu'il soit supérieur ou inférieur. Peut-on donc vraiment parler de fonte ? Enfin, remarquons également que cette croissance de la masse monétaire a aussi un effet très positif. Elle permet de réduire la valeur de la monnaie accumulée par les morts et qui a donc perdu sa pertinence. Alors moi, je trouve que tu as magnifiquement exprimé la réfutation de la notion de fonte, tout en disant qu'on peut parler de fonte si on considère les choses sous cet angle-là, mais en fait, in fine, on a oublié un facteur qui est effectivement que comme la monnaie se crée en permanence, eh bien, la quantité de monnaie des individus ne fond pas, mais tend plutôt vers la moyenne, ce qui est très différent, en effet. Et c'est effectivement, comme tu l'as dit en très peu de mots, un facteur qui est totalement oublié, les explications habituelles, où les gens qui parlent des monnaies fondantes ne parlent jamais de la façon dont la monnaie se crée.
Oui.
Tu es d'accord avec ça ?
Tout à fait, oui.
Et c'est quelque chose que tu as pu remarquer quand tu as pu discuter sur ce sujet-là aussi, ou est-ce que tu n'as pas eu l'occasion encore de parler de ce sujet-là avec des hommes qui parleraient de la notion de fonte ou qui auraient l'intuition de cette notion, mais qui n'auraient pas creusé la contrebalance qui est, mais d'accord, mais la monnaie vient d'où, quoi ?
Je n'ai pas eu d'expérience personnelle avec ça, mais c'est clair que je me suis pas mal rendu compte que souvent, dans les présentations de la TRM, on dit oui, donc il y a la création monétaire permanente, et puis ah, mais donc c'est une monnaie fondante, et dans leur esprit, fondante était vraiment égale à perte inexorable de valeur, juste à ne plus rien avoir, et en oubliant complètement que, en fait, ok, les stocks fondent, mais c'est pas grave, vu qu'il y a un apport supplémentaire, c'est pas, voilà, ça ne s'arrête pas là. Et ça, c'est clairement un point que j'avais l'impression que les critiques oubliaient souvent.
Ouais, oui, ils oublient même tout le temps, hein. Enfin, je veux dire, ouais. Donc ils considèrent, en fait, c'est finalement, je pourrais donner une autre image, c'est comme si on considérait une pomme, et puis on pourrait dire, voilà, je vais considérer une partie de la pomme dont je vais à chaque instant faire réduire la part. Et donc je vais dire, si je considère cette partie, j'ai de moins en moins de pommes. Oui, mais alors dans ce cas-là, l'autre partie de la pomme, elle grandit elle-même en permanence aussi. Ce qui fait que la pomme reste la pomme. Donc c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, pourquoi séparer dans la monnaie la part de monnaie qui se crée de la part de monnaie qui n'est pas créée ? C'est-à-dire, à tout instant, la monnaie reste la monnaie. Il y a une partie qui a été créée, une partie qui existait avant. Mais ça, c'est vrai tout le temps, donc in fine, pourquoi séparer les deux ? C'est un point de vue qui voudrait considérer qu'une part de la réalité en ignorant l'autre part, en fait, finalement.
Ouais.
Donc, dans ce cas-là, effectivement, si on regarde que la pierre qui est lancée sans regarder le bras qui l'a lancé, on n'a pas analysé le phénomène en entier. C'est que... Il faut regarder que comme toute action suppose une réaction, évidemment, si on regarde que l'action sans penser à la réaction, on n'a pas analysé le phénomène dans sa globalité, bien sûr.
Ouais.
D'accord. Donc voilà, ça c'était un point que j'ai trouvé intéressant, parce que ça fait partie de ton travail, où il y a bien sûr beaucoup de mathématiques, les reprises, redémonstrations de résultats de la TRM, etc. Et puis c'est cette partie explicative qui tente d'amener le lecteur aussi à une compréhension intuitive des points, pas uniquement mathématiques, et qui sont très bien faits, et faits d'une autre façon que la TRM le fait dans sa version, disons, première, et qui est tout aussi pertinente et même très très bien vue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça que tu penses avoir expliqué un peu différemment, justement, sur la TRM et qui sont intéressants à dire aux auditeurs ?
Expliquer différemment... disons que je pense que j'ai pris une approche un petit peu différente dans la manière de présenter, d'introduire... introduire la chose et de justifier, c'est ça, la manière d'introduire. Sinon, comme ça, rien ne me vient à l'esprit. Mais bon, ça fait
d'accord.
Temps que je n'ai plus relu mon travail, je l'avoue.
Il faut. D'accord, en tout cas, vous allez voir que. En lisant ce travail, moi je vous conseille vraiment, c'est 23 pages, c'est lisible. Hein. Alors, si vous n'êtes pas mathématicien, bon, mais la partie formule risque de vous rebuter, mais il y a quand même pas mal d'explications textuelles, avec beaucoup d'encarts comme ça. Et bon, Emmanuel n'a pas en tête, mais moi en les lisant, je peux vous dire que voilà, il les explique différemment, mais ça reste correct. Voilà, c'est ça qui est important, parce que si j'avais trouvé des critiques à faire, ben, je les aurais dites, mais en l'occurrence, j'en ai pas. Enfin, ceci dit, si je t'en ai fait, mais avant que tu publies le résultat final.
Hein. Oui, c'est ça. Je suis quand même passé par la case critique Stéphane avant. De...
Voilà. J'ai critiqué quelques points que je trouvais. Voilà. Mais là. Bon, moi, je ne le dirais pas comme ça, je dirais, voilà, pour être précis, ce qu'il dit dans la Terre en détail, moi, je ne le dirais pas comme ça. Mais d'un point de vue explicatif, technique et théorique, bien que je ne le dise pas comme ça, moi, je dis que cette explication, elle est 100% valide. Voilà, c'est-à-dire que c'est une autre façon de l'expliquer. C'est normal que chacun l'exprime depuis un point de vue différent, et tout est correct, voilà, tout est correct. Et les points, surtout les points cruciaux de la TRM, les points sensibles, ils sont extrêmement bien expliqués. Voilà, c'est ça qui est le plus important, parce qu'après, à la limite, les points secondaires, on peut toujours varier, c'est pas très important. C'est, voilà, faut bien comprendre les fondements, après, on peut avoir des interprétations différentes sur les développements, mais c'est un autre sujet. Alors, pour développer ça, tu as parlé de cette... idée que tu avais de vouloir aussi proposer quelque chose de réduit pour expliquer la TRM. Tu as parlé d'une seule, d'essayer de faire une seule feuille synthétique pour en exprimer les principes et développements. C'était une idée que tu avais en tête. Est-ce que tu as d'autres... Je crois que tu n'as pas fini ce travail de la TRM en détail. Tu veux aller plus loin. Je crois que tu souhaites aller... Tu le dis d'ailleurs en fin de document qu'il y a d'autres choses à développer derrière.
Oui, alors en fait, donc il y a plusieurs choses. D'abord, j'aimerais approfondir le document en lui-même parce qu'il y a certains points que je n'ai pas encore traités. Mm-hmm. Ensuite, de manière plus large, j'aimerais bien aussi faire écrire quelque chose qui explique aussi en détail, entre guillemets, en détail, mais toujours en restant assez accessible, la manière dont la monnaie fonctionne actuellement, parce que avant de parler de ce qui, enfin, pour comprendre ce qui ne va pas, il faut d'abord voir aussi comment ça fonctionne maintenant. Mm-hmm. Ça, c'est une partie que je suis d'ailleurs en train de rédiger maintenant. Et puis, il y a toute une partie où là, je suis en train de me documenter pas mal sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait. Toute une partie historique où j'aimerais vraiment faire comprendre d'où vient la monnaie à travers les siècles et comment est-ce qu'on en est arrivé à la monnaie telle qu'on la connaît maintenant, à l'euro.
D'accord. Okay.
Et après tout ça, il y a aussi donc, le fait de vulgariser davantage la TRM et toutes ces choses-là.
D'accord. Donc voilà, donc on sent que t'es quand même t'es à fond et t'es en pleine réflexion. Hein.
Alors, mais je suis à fond dedans là.
Ouais, mais je suppose que ton travail, en ta qualité de docteur en mathématiques, tu traites d'autres sujets que l'économie. Tu n'es pas que sur ce sujet-là, si?
Là maintenant, dans le peu de temps libre qui me reste, je suis vraiment à fond là-dedans. Ouais.
D'accord. Et le reste du temps, tu fais des maths toujours à haut niveau?
Non, en fait, ça malheureusement, j'ai arrêté. Enfin, malheureusement.
D'accord.
Non, maintenant, je travaille, je fais autre chose.
D'accord, t'es sur un autre sujet. D'accord, non, mais c'est pour savoir si ça faisait partie de ton activité à plein temps ou si ça restait un développement annexe, quoi. Alors, pour l'instant, c'est plutôt effectivement annexe et c'est très bien comme ça. Il faut pas non plus se jeter à court perdu dans quelque chose, même si ça plaît, il faut être prudent parce que ça prend du temps.
Ça prend du temps, effectivement. Oui.
Alors, on va maintenant développer la partie pratique, justement, puisque on est à 10 jours des 6e rencontres des monnaies libres. Et alors, tu as aussi fait un pas vers le côté de l'implémentation des monnaies libres, puisque tu es venu participer au 5e rencontre des monnaies libres l'an dernier à Paris-Montreuil. Donc tu m'avais contacté, je m'en rappelle, mais je croyais que c'était un autre Belge que j'avais eu avant, mais en fait non, je me suis aperçu que c'était pas lui, c'était un nouveau. Alors, et tu es venu participer à ces 5e rencontres des monnaies libres. Alors, est-ce que tu peux raconter pour les auditeurs comment ça se passe, c'est quoi ces rencontres, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que ça t'a plu, voilà, est-ce que tu peux nous raconter?
Oui, alors moi je suis venu, j'étais venu le week-end, samedi, dimanche, donc la partie ouverte au grand public.
Oui.
Et donc là, oui, on était tout un groupe, une quinzaine de personnes, je crois, et on avait directement commencé à jouer à la corbeille que tu appelles maintenant J'économitude, je pense.
Oui, c'est ça.
C'était la première journée, et ça a vraiment permis de saisir davantage comment fonctionne. Il y a une partie monnaie actuelle et une partie TRM. monnaie libre, comment ça fonctionne plus concrètement. C'était vraiment super intéressant de le sentir en jouant finalement. Et puis le lendemain, c'était là on a découvert YouCoin. Ça aussi c'était vraiment très enthousiasmant de voir à quel point le projet est déjà pas mal avancé finalement et de voir en pratique tous ces aspects théoriques qui prennent vie et genre je me souviens très bien que on avait inscrit, j'avais mis un compte et puis j'attendais avec impatience le versement du premier dividende universel et puis quand il arrive on est tout content de pouvoir faire des petits paiements à côté. En fait c'est vraiment très chouette.
Ouais, d'accord. Donc,
il y avait aussi fait des développements théoriques le matin, je pense, sur le revenu de base.
Oui, il y avait la démonstration de la pure équivalence entre une approche qui croit qu'il faut qu'on finance le revenu de base et l'approche qui dit, mais non, en fait, c'est beaucoup plus simple de créer de la monnaie. Alors, d'ailleurs, je vais te dire tiens, un petit mot là-dessus, sans redonner tous les détails de ça, je ne vais pas les donner. J'ai fait un gros développement mathématique. C'est d'ailleurs dans la version de la théorie relative à la monnaie qui est maintenant en ligne et qui est complétée par ce développement. Je voudrais dire quelque chose, c'est plus simple de créer la monnaie. Pourquoi ? Parce que quand vous créez de la monnaie, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre de la monnaie à des individus. Vous ne prenez rien à personne. Voilà. Parce que souvent, l'excuse justement de l'absence de redistribution, du système redistributif justement, c'est de dire mais on ne peut pas aller dans les paradis fiscaux parce que c'est d'autres pays, etc., 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 ce genre de trucs. Où la monnaie est cachée quelque part, ou etc. Alors qu'en fait, le fait de distribuer la nouvelle monnaie à tous est déjà un critère d'assouplissement quantitatif, for the people, entre guillemets, c'est le terme qui est utilisé, et qui n'oblige pas d'aller chercher de la monnaie qui appartient déjà à des personnes. Voilà. On n'est pas obligé d'aller prendre finalement pour partager. Voilà.
C'est absolument génial.
Voilà, c'est quelque chose. Alors, je dis pas que c'est suffisant non plus. Hein. Je dis pas qu'il peut pas y avoir derrière d'autres types de problèmes qui surgissent si on fait que ça. Mais je dis quand même, c'était quand même un gros point qui aujourd'hui est totalement sous-estimé. Quoi. Voilà. Je dis, c'est une part importante, voire même très importante. Je dis pas non plus que ça pourrait ne pas être suffisant. Je réponds pas à cette notion de suffisance parce que c'est une notion relative. Donc, d'accord. Alors donc tu avais donc participé à ces jeux. Alors notamment, alors moi je vais quand même dire ça hein, parce que tu le dis pas parce que tu es modeste, mais tu avais participé à ce jeu Géconomicus en cartonnant hein, parce que tu as eu les meilleurs résultats.
Ah, ça je savais pas finalement.
Oui. Et oui, c'est quand même dans les deux parties, que ce soit la monnaie de dette d'ailleurs. Ou la monnaie en dividende, hein, tu avais réalisé le meilleur score.
Ah, comme quoi.
Voilà, hein, donc on s'est dit, oula, mais lui, l'économie, disons, il y a réfléchi. En tout cas, au moins, je me dis, moi, c'est quelqu'un qui sait compter. Voilà. Donc,
il a caché des bonbons dans mes poches.
Alors, est-ce que ce jeu, justement, je connais qui est justement un jeu qui est fait pour simuler une économie, alors c'est une simulation, bien sûr, au-delà de l'espérance de vie, avec un système simple de roulement, finalement, qui explique pour expliquer une monnaie libre. Et puis, en expliquant un autre système monétaire avec la dette, on permet de voir que deux systèmes monétaires donnent des résultats différents, qui est assez relativement simple à mettre en place, à part le fait que, pour qu'il ait vraiment un intérêt, il faut être au moins 10 joueurs. Bon, donc réunir des personnes, c'est déjà un peu compliqué. Mais est-ce que ce jeu, il a été joué en Belgique ? Est-ce que toi-même, tu y as joué en Belgique depuis ? Ou est-ce que tu projettes d'y jouer ?
À ma connaissance, moi, je n'y ai pas joué en Belgique jusqu'à présent. Ça, c'est clairement un truc... oui, je projette d'y jouer dans le sens où dès que j'ai l'occasion de faire des activités en rapport avec la monnaie ou quoi, ça, c'est clairement quelque chose à proposer et je pense que ça a vraiment son intérêt, ça c'est sûr.
D'accord. Donc éventuellement, si des auditeurs belges nous écoutent et seraient intéressés, ils peuvent essayer de te contacter pour voir si ensemble vous pourriez y jouer, quoi.
Avec grand plaisir.
Voilà, donc ça c'est un appel à nos amis belges. Alors bon, malheureusement tu ne seras pas présent cette année pour les FMM6.
Non, malheureusement ça ne se met pas, non.
Mais peut-être pour la prochaine, alors.
J'espère vraiment, parce que c'est quelque chose qui... c'est vraiment super sympa comme événement et... Et voilà, je serais vraiment content de pouvoir revenir.
Alors évidemment, en plus, le projet Ucoin avance chaque fois un peu plus, hein, ce qui fait qu'il est de plus en plus mûr, hein, à tel point que il commence à avoir maintenant des velléités de vraiment développer une monnaie, je dirais, véritablement utilisable, hein, voilà, une monnaie...
Et plus un genre de test.
Voilà, parce que là, on est sur des monnaies de test encore, même si elles prennent de plus en plus d'ampleur, c'est-à-dire la monnaie de test qu'on utilise aujourd'hui est déjà beaucoup plus avancée que la monnaie de test initiale, et voilà, et plus on avance, plus la maturité du système, bien sûr, approche de quelque chose de totalement opérationnel, voire même ça l'est déjà, en fait, hein, simplement après, il y a encore... comme tu disais, il faut vulgariser pour la TRM, mais pour un logiciel, tu sais aussi que pour un logiciel, il faut que l'outil final soit accessible par le plus grand nombre. Et ça aussi, ouais. Même si techniquement tout marche, il faut encore faire des développements d'ergonomie, voilà, c'est ça. On appelle ça IHM aussi aujourd'hui, interface homme-machine, mais enfin moi je préfère le terme ergonomie. Voilà, l'ergonomie, c'est rendre un outil facilement utilisable par monsieur tout le monde dans un grand panel d'utilisation. Par exemple, à la fin, si chacun pouvait avoir, par exemple, comme l'équivalent d'une carte pour faire ses échanges économiques avec la monnaie, comme on a aujourd'hui une carte bancaire, avec une monnaie libre, on pourrait très bien aussi avoir une carte, mais ça suppose que derrière, on vérifie que tout marche correctement et qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc bref, donc tout ça avance vite avec des gens motivés, bien sûr, et bien sûr, il y a des nouveaux contributeurs qui petit à petit rejoignent le projet. On est beaucoup plus nombreux qu'au début, on est plus nombreux que la dernière fois et on est moins nombreux que la prochaine. Voilà. alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs de plus sur ton approche sur le sujet de la TRM et des monnaies libres ou du projet Ucoin ou des rencontres des monnaies libres?
Ce que j'ai envie de dire, c'est que le projet en vaut vraiment la peine et que s'il y a des auditeurs qui hésitent encore à s'intéresser davantage ou à s'impliquer un petit peu plus, je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut amener beaucoup à long terme.
D'accord. Ouais, donc tu dis long terme, hein. Tu étais comme moi, t'es prudent.
oui, parce que il y a encore beaucoup de choses à faire, ça c'est clair.
Ouais, beaucoup de choses. D'accord. Et donc, comment toi, tu vois, en termes d'agenda, en termes de futur, ce développement se faire? Est-ce que tu penses ou tu souhaites que ça se fasse rapidement, pas rapidement? Est-ce que tu le vois se développer de façon progressive ou de façon rapide? Comment tu vois ça?
Alors, je souhaite évidemment que ça se passe le plus vite possible, mais je ne me fais pas trop d'illusions non plus parce que... Oui, il y a encore beaucoup de choses à changer dans la tête des gens, en fait, avant que ça puisse vraiment arriver. Donc, je me vois assez mal donner des prédictions, mais c'est clair que, on va d'abord commencer avec, quand Ucoin arrivera, c'est sans doute grâce à ça que ça va percer. Une fois qu'il y aura une monnaie un peu, via Ucoin qui développera, qui sera peut-être utilisé davantage, un petit peu plus, qui fera son chemin, ça sera peut-être utile dans la tête des gens et ça va peut-être aider, mais oui, peut-être aussi via le revenu de base que ça pourrait créer des idées, mais déjà par exemple le revenu de base qui pour moi est quelque chose d'entre guillemets plus facile à implémenter, on n'y est pas tout de suite, alors je pense que ça passe vraiment, enfin faut vraiment voir ça à très long terme.
Tu penses, toi, que le revenu de base financé dans la monnaie officielle, qui n'est pas une monnaie libre, qui est de la dette, etc., serait plus facile à mettre en place que le développement d'une monnaie libre?
Non, enfin oui et non. Dans le sens, je pense, bon, le développement d'une monnaie libre, c'est facile dans le sens, comme tu le dis souvent, après tout, on peut en créer comme on veut, on a besoin de personnes pour ça. Mais le fait que ce soit utilisé à grande échelle, que les monnaies libres soient utilisées à grande échelle, ça sera plus difficile à mettre en place qu'un revenu de base, j'ai l'impression.
D'accord, t'as l'impression. Mais bon, après, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors moi, je ne suis pas sûr de ça, parce que, même si, bien sûr, ça serait bien que le revenu de base se mette en place, mais j'ai quand même le sentiment que ceux qui tiennent la monnaie le considèrent vraiment comme... comme un outil qui leur appartient et qu'ils comptent pas que en être dépossédés, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un sentiment de propriété fort du système monétaire par ceux, ouais, par ceux qui le détiennent, voilà, enfin par leurs actionnaires, parce qu'essentiellement c'est quand même les banques privées qui tiennent le système, même si bien sûr avec la notion de banque centrale, il y a l'État qui aussi fait un rôle, mais on voit bien que l'État aussi crée une différence entre privilégiés et non privilégiés. C'est-à-dire que l'État aussi a un rôle asymétrique dans l'économie. Donc deux pôles asymétriques ne font pas une symétrie, quoi. J'ai l'impression que ça ne peut jamais aboutir à une décision d'égalité en droit, parce qu'on est devant des pôles d'intérêt qui voient les choses avec à chaque fois un point de vue asymétrique qui n'acceptera pas de passer à autre chose. Donc on est plutôt sur une lutte permanente entre ces pôles-là, et donc je vois mal comment cette lutte permanente, cette lutte d'intérêt pourrait aboutir à quelque chose qui justement l'acceptation de chaque être humain parti d'un système monétaire comme coproducteur. Je crois qu'il y a là, je crois que c'est vraiment une approche différente, bien qu'elle puisse théoriquement s'appliquer à tous les hommes. Je pense qu'en pratique, il y aura toujours des hommes qui, de toute façon, voudront en être distincts, qui voudront utiliser autre chose et qui voudront faire les choses différemment. Donc je crois que bien que ce soit possible, comme je dis souvent, une monnaie libre est possible, je pense qu'en pratique, ça peut pas véritablement être pour tous, et qui plus est même, si un jour ça venait pour tous, qu'en serait-il des nouveau-nés? Est-ce que les nouveau-nés accepteraient d'être dans ce pour tous-là, entre guillemets? Est-ce que finalement ils y verraient pas des problèmes qui feraient qu'ils voudraient encore faire quelque chose de différent? Donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est une recherche impossible d'aller chercher toujours un consensus entre tous, d'autant que ceux qui cherchent un consensus entre tous voient toujours les ennemis du consensus comme n'en faisant pas partie. Donc ils sont dans la contradiction, hein, c'est-à-dire que, même par exemple, même quand Étienne Chouard, que tu dois connaître un peu, quand il parle de la Constitution, quand il dit « nous », il dit « nous » en opposition à « eux », eux étant ceux qui trafiquent la Constitution, justement, à leur propre avantage. Donc déjà, dans le « nous » qu'il imagine, c'est déjà pas tout le monde. Donc voilà, donc voilà, et je pense que à la limite c'est normal, c'est-à-dire que le nous peut pas être compris s'il y a pas justement l'opposition au nous. C'est-à-dire que quelque part le concept n'existe que si son opposé existe aussi, quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette nécessité, si un existe, c'est que moins un doit traîner quelque part.
Ouais, je vois.
Tu vois, donc c'est pour ça que autant le renouvelage, je pense que ça peut exister dans certains pays ou dans certaines régions ou certaines sociétés pourraient éventuellement passer sur ce modèle-là, mais est-ce que ça serait durable? C'est pas sûr. Et est-ce que les autres pays feraient pareil? C'est encore moins sûr. Voilà. C'est-à-dire que est-ce qu'il y aurait mécaniquement, voilà, c'est comme dire, voilà, les droits de l'homme, par exemple, donne des droits universels à l'homme, mais on est plus de 200 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, et bon, on voit bien que ils sont pas appliqués partout. Voilà, donc je crois que c'est ce problème-là, quoi. Je sais pas si tu le vois comme ça, ce problème politique, ou si ça...
Il y a une composante politique et aussi une composante... Tout simplement, parce que, enfin, même simplement dans la conception qu'ont les gens eux-mêmes de l'économie, de la monnaie, etc., il y a tout un travail à faire, c'est aussi au sein même de la population, et je ne sais pas,
Prudent le mathématicien.
Pardon ? Non, ça toujours.
Ouais, le mathématicien est toujours prudent, bon. Voilà, parce que comme quand il connaît les dangers des raisonnements, il s'abstient de trop, hein, de dire trop de trop de choses, parce qu'il sait que...
C'est
tout ça. Oui, c'est ça, c'est le problème de la logique. Si on veut être logique, on peut pas dire trop de choses à la fois, parce qu'on risque de donner une incohérence. Tu es d'accord avec ça? Il y a le fameux adage asiatique, hein, c'est le Tao qui dit « Celui qui sait ne parle pas ».
Ouais.
Je sais pas, hein, voilà. Alors, il faut creuser la question. Hein. Pourquoi celui qui sait ne parle pas ? Voilà. Donc, autre chose peut-être, Emmanuel, pour finir, pour les auditeurs de Monnaie Libre ?
Merci de m'avoir écouté. Non, sinon... Non.
D'accord, voyez. Donc la prudence du mathématicien, voyez, peu de choses, mais des choses précises. Allez lire donc le travail d'Emmanuel Bulteau, l'intérêt en détail, il n'y a pas de superflu, c'est précis, ça rigole pas, tout ce qui est dit a été réfléchi, publie pas un docteur en mathématiques, publie pas un truc comme ça sans y avoir réfléchi, parce que sinon il va dévaluer son diplôme, ça serait pas bien. Donc allez-y, vous vérifierez. Si vous êtes mathématicien, vous verrez que c'est effectivement des maths. Bien sûr, c'est un peu de maths, mais c'est pas non plus des mathématiques hors de portée, quoi. Hein, c'est voilà.
Non, du tout.
Voilà, donc ça reste accessible en y travaillant un peu, et c'est expliqué différemment la théorème avec ça. Lisez ça, lisez la théorème en détail, même si vous avez lu la théorème originale. D'abord, c'est plus court, c'est 23 pages. C'est très bien fait, très bien expliqué, une autre façon d'expliquer, et vous voyez qu'on peut comprendre la théorème de plusieurs façons, tout en restant précis et en retrouvant les mêmes résultats, parce que sinon ça veut dire que vous avez dévié quelque part. Et c'est le cas, donc allez-y. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir participé à cette émission.
Avec grand plaisir Stéphane.
Voilà, merci à tous d'avoir écouté Emmanuel Bulteau sur la théorème en détail. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain Monnaie Libre. Au revoir, je vous laisse donc avec notre générique fétiche sur Monnaie Libre, No More Dreams. Au revoir.